Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui ne vous perd pas dans le monde magique et merveilleux du comics. Cette semaine, on vous parle de Superman Lost de Christopher Priest. Et je suis avec ma petite équipe habituelle, commençant par Faye. Salut Faye, est-ce que ça va Faye ?
Salut, oui ça va.
Ça va très bien ?
Oui.
J'ai voulu faire une référence dans la promo de l'émission. J'ai voulu dire ah oui, Superman est perdu dans l'espace, mais pas avec Matt LeBlanc. Et Faye m'a dit mais non, mais il y a personne qui va l'avoir.
Non, je t'ai pas dit ça. Je t'ai dit qu'elle était mal placée, ta truc. Tu vois, tu me donnes des propos que je n'ai pas tenus. Ah non.
On est aussi avec Angel. Ça va, Angel ?
Salut.
J'adore à chaque fois que je demande à Angel si ça va, elle ne me répond jamais.
Désolé, j'étais un peu dans mes trucs.
Dans Final Fantasy VII Remake encore.
Sur oh non,
Tomb Raider.
C'est fini ça.
Tomb Raider fini, maintenant.
Tomb Raider, il faut que je finisse Alone in the Dark. Enfin, que je le finisse. Il me reste un trophée à voir, mais il est buggé.
Ah merde.
On est aussi avec Spades, du coup, qui a pris la parole. Salut Spades. Et avec quelqu'un que vous avez déjà entendu. Luna, salut Luna.
Salut.
Ça va Luna ?
Ça va nickel, je suis avec un chat qui ne va pas apparaître.
C'est pas grave, c'est cool. Il n'y a pas de chat dans l'espace. Enfin si, il y a le chat de... Ça s'appelle comment déjà le chat
d'Alien ?
De Astrocytus.
Mais non, mais dans Alien, elle est avec un chat.
Ouais, mais dans les Red Lanternes, le leader des Red Lanternes, oui, il a un chat avec lui.
Ouais. Son copain.
Bah dans The Marvels, il y a des chats aussi.
Oui, dans The Marvels, il y a des chats.
C'est Dexter.
Dans l'espace. Voilà, merci Speed. Donc, comme je disais, on va parler de Superman Lost, mais avant ça, comme d'habitude, on va faire une petite recommandation culturelle. Et en parlant de recommandation, avant que je vous donne ma recommandation, sachez que j'ai fait une petite chrono-reco. J'ai eu un giga coup de cœur pour Yann de Cheng Cheng, qui est sorti chez Glénat. C'est dispo sur TikTok, Instagram, YouTube, c'est un peu dispo partout. Donc n'hésitez pas à aller écouter l'émission, à me faire un petit commentaire et à liker tout ça, vous savez ce qu'il faut faire. Mais voilà, ça fait plaisir. Et si vous l'avez pas lu, bah lisez-le. Vraiment, j'ai adoré ce titre. Il est vraiment très très cool. Et j'ai pas précisé, c'est du manhwa, donc du manga coréen. Et bah c'est cool de mettre un peu en
avant. Est-ce qu'il y a du voyage dans le temps avec des réincarnations ?
Non, il y a pas de. Ah, si, il y a du voyage dans le temps.
Ah, si. Tu vois, c'est ma passion. J'adore ça. Voilà,
tu devrais le lire. Hein, je suis sûr que ça va te
oui,
faire.
Oui, mais je le lirai. T'inquiète, cool. Je le lirai.
Même si c'est quand j'ai dit que j'avais des refs à la Matrix, elle s'est dit mais c'est pas.
Mais non,
c'est pas
mais...
Matrix qui a inventé le kung-fu.
Mais oui, non, mais c'est n'importe. Tu devrais avoir honte, James. C'est pas le dire.
Oui, non, mais moi c'est mes refs. J'y peux rien.
Ah oui, Faye, tu as vu que Keanu Reeves allait faire la.
Ah mais bien sûr. Mais ne prends pas le.
Mais bien sûr, mais je.
C'est
je...
dans les news. C'est dans l'actu pop.
J'irai voir le tonton des États-Unis pour prendre que les scènes avec Keanu Reeves.
On entend pas ça. Alors chut.
Avec Jim Carrey.
Comme d'habitude, après l'émission review, il y aura l'actu pop où on reviendra sur toute l'actu. De pop culture, et effectivement on parlera de Keanu Reeves et de cinéma pour le plus grand bonheur de Spades. Est-ce que t'as une Spades, est-ce que t'as une recommandation culturelle à nous offrir? Est-ce qu'il y a Keanu Reeves dans cette recommandation?
Non, il n'y a pas Keanu Reeves dans ma recommandation.
J'imagine un poster de Keanu Reeves.
Ah, t'as pas de recommandation?
Non, j'ai vraiment pas eu de temps cette semaine, c'est en plein rush tous les côtés, donc
c'est pas grave,
c'est
ça vrai. Arrive.
J'imagine le bureau de Space avec des photos de Keanu Reeves partout maintenant.
C'est certain. Luna, est-ce que t'as une recommandation culturelle à nous offrir?
Oui. Je vais essayer de mettre la caméra pour ça. Alors, c'est une BD.
Ouais.
Je vais essayer de la mettre en avant. C'est une BD qui s'appelle Penny.
Ouais. C'est pas grave.
Vas-y.
On voit, c'est bien, c'est bon.
Et
il y a un chat.
Et il y a des chats encore.
Voilà, ouais. C'est une graphic novel du chat de cette BDiste.
Ouais.
BDiste homme. Et en fait, c'est très drôle parce que c'est existentialiste. Donc c'est un chat qui est blasé de la vie et qui fait des réflexions très existentialistes. C'est très drôle. Et j'ai découvert ça sur Instagram. Et ouais. Franchement, je vais trouver. Je mettrai l'Instagram après en lien.
Mmh. D'accord.
Comme ça, vous avez un aperçu de la BD.
On la mettra dans la description.
Ouais, on mettra dans la description. Oui. Parce que franchement, c'est super bien dessiné et c'est super drôle.
T'as le nom de l'auteur ?
Oui, Carl Stevens.
D'accord. Ok, ok. Et du coup, ça parle de quoi, à part du fait qu'il y a un chat
Bah, c'est le chat qui fait des réflexions existentialistes.
Ok.
C'est très terre-à-terre et très drôle parce que ça part dans la philosophie, ça parle d'anxiété, ça parle de dépression, mais c'est, le focus, c'est vraiment l'existence. Qu'est-ce que c'est l'existence ? Pourquoi on est là ? Et puis le chat qui est blasé, qui fait sa vie. On a tout de point de vue du chat, en fait. Hein.
Ok.
En fait, c'est Garfield, mais sérieux, quoi.
C'est Garfield sérieux et drôle en même temps. C'est plus adulte, quoi.
Mmh. Ouais, donc pas Garfield du tout, du coup. Si c'est drôle, pas Garfield.
Ah, moi, je trouve Garfield drôle, mais bon.
Ouais.
Bon, on parle de la BD, on parle pas du film.
Oui, on parle pas du film, effectivement.
James, tu avais pas une anecdote sur Garfield ?
Arrêtez, s'il vous plaît, ne me relancez pas sur Bill Murray et Garfield. C'est interdit.
Je préfère faire des réflexions sur Sébastien Coé à la place.
Ouais, voilà. ouais.
Sinon, dans les recommandations, je vois que XP a suivi la mienne de regarder Chuck. Et en 3 semaines, il est déjà la saison 5.
Ah ouais, putain, il a bien avancé. Hein.
Vraiment, il doit aller bouffer. Bah, il y a beaucoup d'épisodes de Chuck.
Ouais, je pense que ça doit être 16 épisodes par saison, je crois, un truc comme ça.
Oh ouais, ça va.
Bah, la saison 5, c'est la dernière.
Ouais.
Mm. Bah, en parlant de série.
La meilleure, c'est la deuxième. Ah, oh, il y a des trucs incroyables dedans.
Moi, j'ai pas vu Chuck.
Faudrait que je les revoie, c'est longtemps que j'ai pas eu.
Moi du coup je vais parler de séries télé aussi. J'ai vu Ripley, moi c'est une mini-série puisqu'une une série sur Netflix. Donc c'est l'adaptation du bouquin de, j'ai oublié le nom de l'autrice, une romancière américaine qui a écrit le talentueux Monsieur Ripley. Et moi j'ai appris, je savais pas, qu'en fait Ripley c'est une série de 5 bouquins en fait. Donc sur je sais pas si vous avez vu Plein Soleil, qui est une adaptation, une autre adaptation de du coup de ce bouquin, et aussi Le Talentueux Monsieur Ripley de j'ai oublié le nom du réal, mais avec Matt Damon et Jude Law.
Matt Damon. c'était Anthony Minghella le réalisateur.
D'accord. Ah oui, moi je l'ai pas vu moi celle-là, du coup je pourrais pas vous dire si c'est bien ou pas.
Moi, j'ai pas aimé, mais bon, il y en a qui aiment.
D'accord, bon bah.
Mais j'aime pas non plus Plein Soleil. Donc.
Mais la série Netflix, et bah vraiment, ça faisait un moment que je me disais que les séries Netflix, bof bof. Là, vraiment, je l'ai trouvé ouf cette série. Rien que sur le visuel. Donc, pour les gens qui sauraient pas, en fait, Ripley, c'est un jeune New-Yorkais. On est dans les années 50, et donc c'est un jeune New-Yorkais qui vit un peu de petites arnaques. Qui est un peu désœuvré et qui manque vraiment beaucoup, beaucoup de thunes, et qui va être contacté par une connaissance avec des guillemets à lui, et merci, je remettrai excusez-moi, je me laisse couper par le. Donc, qui va être contacté par une connaissance à lui, et qui va lui dire. Donc, c'est un riche armateur, donc quelqu'un qui fait des bateaux, à qui le fils, donc qui est censé connaître Ripley, lui est parti en Europe et ne veut plus revenir aux États-Unis. Et en fait, son père, donc le riche armateur, va payer Ripley pour lui dire bah va en Europe, va en Italie et ramène mon fils. Et donc ce mec va partir, va rencontrer Ripley, et Ripley va rester un peu accroché à ce mec, et bon il va se passer des choses, vraiment c'est une super belle série. C'est tout tourné en noir et blanc, et dans cette Italie des années 50, et vraiment ça m'a rappelé à quel point moi j'ai grandi en Savoie, comme je vous le savais peut-être. L'Italie, je connais bien, j'y suis allé plein de fois. Et en fait, l'Italie, c'est super beau, quoi. Puis surtout ce côté de l'Italie-là, la Riviera italienne, elle, c'est vraiment beau. Et la série la filme de façon assez, assez belle. Et puis après, en plus, on voit d'autres villes. On voit Rome, on voit plein de villes italiennes. Et vraiment, c'est super beau. C'est super bien filmé. Il y a des plans vraiment exceptionnels. Et l'histoire est super. En fait, c'est marrant parce que donc Ripley, c'est vraiment un personnage. Enfin, moi, je découvrais parce que du coup, j'avais pas vu plein seul. Enfin, j'avais pas vu les adaptations et j'ai pas lu les bouquins. Et c'est en fait, on découvre un personnage assez amoral, qui, mais pas dans le sens il a pas conscience du bien et du mal en fait, et il fait des trucs. on s'attache à ce mec alors qu'il fait des trucs vraiment pas cool. Et il y a l'évolution de ce mec et c'est assez intéressant. Et donc moi je vous conseille vraiment cette série. Elle est menée par le mec qui faisait Moriarty dans la série Sherlock, dont j'ai oublié le nom, mais qui peut, comme j'en parlais avec Faye, elle me disait ce mec il est capable de faire des trucs très très bien comme des.
Bah dans Fleabag il faisait un prêtre là dans la série. C'est Fleabag, ça se prononce la série
je l'ai pas vu.
Mais si, la série aussi, tu l'avais vue, la série sur Amazon Prime de celle qui était dans le dernier Indiana Jones, je ne sais plus son nom.
Ah, Fleabag.
Oui, bah c'est ça, oui, que j'essaie de prononcer maladroitement.
Ok, pardon, j'avais pas compris. Mais moi je me souviens dans le James Bond, je sais plus c'est lequel, où il était pas terrible dans le James Bond.
Bah c'était pas dans celui où il y a le générique de... Oh, je perds tous mes noms ce soir. Je vais me
coucher. De Adèle.
Ouais, c'est quoi, Skyfall, voilà, j'ai entendu.
Ouais,
Skyfall.
Je crois qu'il est dans Skyfall, effectivement.
Oui.
Mais bah du coup là, dans Ripley, il est vraiment très très bon. Et vraiment, si vous avez l'occasion de regarder Ripley, allez-y, c'est très très beau. Et voilà. Angel, est-ce que t'as une recommandation à
Oui, bah je me suis mis du coup à suivre la série X-Men 97.
Ah, très ouais. Bon choix.
Ne m'en parle pas, je suis en deuil.
Ah.
Ne m'en parle pas. Je suis traumatisée.
Le dernier épisode n'a pas...
l'épisode 5, mais... Ah, incroyable, l'été, mais...
J'ai pleuré les larmes de mon corps.
On verra la suite si vraiment ils vont à fond, parce qu'on sait jamais, tu peux toujours avoir un petit truc et au final, non.
Non, mais je mets mes espoirs dans Cable. Et vraiment, j'ai pas envie, parce qu'il fait partie de la famille Summers. Donc voilà.
Ouais, il a l'air moins dur. Enfin, du peu qu'on voit, il a l'air moins dur que le personnage des années 90 dans les comics. Mais ouais, donc la série, bah c'est donc c'est une saison 6 en réalité de X-Men.
C'est la série
des années 90. Donc ça reprend où ça se finit. Donc en réalité, le professeur Xavier n'est plus là. Les X-Men doivent du coup faire sans lui. Et ils vont avoir différentes surprises, notamment un ancien ennemi qui va devoir reprendre
beau gosse.
reprendre les rênes de l'équipe, des événements qui vont arriver dans la petite famille Summers, que j'ai trouvé ça bien foutu, ça change par rapport à ce qu'on avait eu dans le run de Chris Claremont.
T'as remarqué qu'en fait dans le générique à chaque fois ils changent des images et par rapport à un certain personnage,
les cheveux,
ils avaient changé les cheveux, je trouvais ça super cool.
Ouais, mais tu vois, je préférais l'autre coiffure. Quand j'avais ça, je me disais, c'est
aussi
cool, ça fait plus moderne, ça lui va mieux. Et quand j'ai vu que Zombie, j'ai dit, ah merde, c'est con. Mais bon, c'est... Voilà. Non, la série, elle est très bien. Bon, niveau design, je sais pas, des fois, ils ont essayé de rester un peu proche, j'ai l'impression, de ce qui était en 90. Mais les couleurs, des fois, sont peut-être un peu trop pétantes. C'est vrai qu'au niveau dessin, enfin animation, des fois, je trouve pas ça ouf. C'est pas dégueulasse, hein, et je sais pas. Je trouve qu'ils ont pas réussi à trouver le bon équilibre entre eux. On reste un peu fidèle à ce qui était et on modernise. Ils ont pas trouvé le juste milieu.
Par contre, le costume de Magneto, c'est un nom. Hein. C'est un nom direct.
Mais,
il
est magnifique, Magneto.
Il est horrible ce costume.
Mais quel charme.
C'est ce qu'il avait. Alors, si je dis pas de conneries, c'est la tenue qu'il avait dans l'arc Le procès de Magneto.
Ah ouais, mais elle est ignoble, cette tenue.
Ouais, mais...
Non, elle met en valeur ses bras.
Oh. Il respecte bien quand même au niveau des comics.
Les manches trouées, là. Il y a une espèce de longue manche.
C'est les années 90.
C'est ridicule, quoi. Ouais,
il était fan de Flashdance. Il voulait un effet un peu juste au corps, tu vois, pour danser. Voilà, ouais, bon.
Ah, tu prends le costume de Jean Grey, j'ai toujours trouvé pas top. Hein. C'est pas... Et Jubilee, elle est toujours habillée pareil, quoi. Qu'elle combatte, elle est en tenue comme ça, combat pas, elle est en tenue comme ça. Voilà. Elle a que son manteau jaune dans sa garde-robe, elle a que ça.
Mais elle est tellement inutile.
Bah, c'est le début, donc je me dis, ça va un peu.
Mais elle était déjà inutile avant, hein. Ça n'a pas changé.
Bah, ouais. J'en ai vu quelques-uns d'épisodes de la série originelle, et du coup, bah, je suis en train de mater aussi la série originelle. Bon,
l'as refait du coup.
Bah, je dois être au 5e épisode de la saison 1. J'y vais doucement, sûrement. Mm-hmm. Et parce que bon, la VF, je la trouve pas ouf, la VF des postes.
Ah ouais.
Surtout le professeur Xavier.
Je regarde aussi l'original et je suis à la moitié de la 3e saison. C'est génialissime.
Tu regardes quoi? Tu regardes en VO ou en VF du coup?
Alors, j'ai commencé en version en portugais brésilien.
Ouais.
Parce que c'était la nostalgie de mon enfance. Et après, y arrivant un point, je pense que ça n'a pas été vendu au Brésil parce qu'il n'y a plus de portugais. Du coup, je suis passée en anglais.
Ah, okay.
C'est pas terrible. Et Faye m'a dit que la 97, c'est la suite. Donc, je vais finir l'original avant d'attaquer la 97.
Ah, ok.
Ah, moi, je mélange tout. J'ai même, du coup, tout à l'heure, je suis repartie sur X-Men Evolution. Donc je vais me faire les trois séries en même temps, ça va être un carnage dans le cerveau.
Je peux pas.
Mais du coup, j'ai une question. Bon, c'est complètement une digression, mais Luna, du coup, au Brésil, la culture au niveau du doublage, c'est plus des trucs sous-titrés ou il y a beaucoup de doublage
C'est beaucoup de VO. Hein. Mais après, la télévision ouverte, chose qui n'existe plus parce que tout le monde est maintenant sur des plateformes de streaming. Mais quand il y avait la télé, c'était en version traduite en portugais.
D'accord.
Mais c'est très mauvais et dès qu'on pouvait, si on avait un DVD ou quoi, c'était en VO.
Ok, donc il n'y a pas, comme en France, une vraie culture du doublage.
Non, d'ailleurs, le cinéma, c'est 80% du VO, en fait. C'est l'exception quand il y a la version traduite.
Nous, c'est rare de trouver
même
des séances en VO.
Ou en VO. Ça existe, la version traduite, mais c'est pas dans la culture. On est très américanisé.
Ok. En même temps, vous n'êtes pas loin de l'Amérique, donc c'est peut-être plein de... Ouais,
c'est le néo-impérialisme aussi.
Ouais, bah oui.
C'est surtout que les Français, on a un problème à apprendre une autre langue.
Il y a ça,
Je crois qu'en Allemagne et tout, c'est pareil. Hein. Je sais pas si tu...
En Suisse, c'est pareil.
C'est vraiment... Ah ouais, ouais, ça m'étonne pas. Est-ce qu'il paraît le ciné en Suisse, ça coûte une blinde.
Enfin, bon, France aussi. Hein.
Ah ouais, tu trouves que c'est cher en France?
C'est super cher. Nous, on a pris l'abonnement, du coup, ça va. Mais sans l'abonnement, c'est presque 17 euros. Ça va pas du tout.
Ouais, ça abusait en France, hein. Ça a flambé ces dernières années, c'est indécent, quoi. C'est vraiment, en fait, maintenant, le cinéma, c'est un loisir
c'est un
de
luxe.
Bah, de toute façon, ça baisse. Ça se casse la gueule au niveau des fréquentations de cinéma.
Alors, en même temps, c'est tellement cher. Enfin,
ouais. Bah, après, moi, je sais que je prends les séances du matin, dimanche matin, c'est 7 euros, je crois.
Enfin, nous on a le truc, donc on de toute façon
bah
20 euros par mois et puis ça y est, on va voir tous les films qu'on veut.
Moi ça me servira à rien, le dernier film que j'ai vu c'est Madame Web et le prochain ça sera Deadpool, donc
il faut être un peu plus curieux et voir plein de... Il y a plein de films qui sortent, on va en parler tout à l'heure. Du coup vraiment on est parti dans Faye, est-ce que t'avais une reco?
J'ai pas fait de reco, moi je me suis dit
mais j'étais en train de me dire
t'as vu que là pour les digressions ça fait 20 minutes, moi j'ai fermé ma gueule.
bravo Space.
Mais moi j'ai vu que t'as été très sage, bravo
Space.
Moi ça va être rapide. je regardais YouTube, puis je suis retombée en fait en allant sur la chaîne de YouTube de Kylie Minogue, parce que je cherchais une chanson, et j'ai découvert en fait un album que j'avais pas écouté d'elle, qui s'appelle Abbey Studio Session, je crois, un nom comme ça, où c'est en fait plein de morceaux de Kylie Minogue qu'elle a enregistré en version acoustique. Donc avec un orchestre, avec des morceaux où c'est juste la guitare, des morceaux où c'est piano et tout. Oui, j'explique un peu les types d'instruments
oui,
qu'il y a.
Oui, t'as raison.
Voilà, bon, tu m'énerves. Moi, je t'ai rien dit sur ton tunnel de replay.
Surtout que t'avais des trucs à dire en plus, donc t'aurais pu...
Bah, j'ai rien dit.
Oui,
j'ai
t'as bien dit. Fait, merci. Voilà.
Donc bref, donc j'ai adoré écouter cet album, parce que vraiment, ça m'a rappelé... Je trouve qu'elle a une voix magnifique, Kylie Minogue, qui est souvent un peu cachée avec le côté un peu électropop qu'elle utilise ces dernières années. Mais alors, juste au piano, elle a une voix magnifique. C'est limite féerique, des fois, sur certains morceaux. Et il y a des morceaux que j'ai redécouverts, genre Come Into My World au piano. Un que j'aime beaucoup, il s'appelle I Believe In You. Et vraiment, il est hyper touchant au piano et tout. Enfin, j'adore. Et il y a aussi un autre morceau que j'aime bien, où c'est un duo, alors je sais plus le nom du chanteur, où en fait, c'est l'histoire en gros d'un gars qui a tué une fille. Et donc, on a le point de vue du tueur et le point de vue de la fille qui est dans l'eau. Et je crois qu'elle s'appelle Elizabeth dans l'histoire. Et la chanson, elle est vachement cool. Enfin, j'adore les paroles et tout. Et là, juste. Voilà, merci. Voilà, merci.
Une chanson
merci
absolument Spade. Fabuleuse.
Elle est magnifique. Et alors là, vraiment, cette version-là, elle est subissime. Vraiment, moi, je vous invite à aller voir sur sa chaîne YouTube. Vous pouvez avoir, il y a plein de tous ces albums dispo. Il y a des clips et tout. Et il y a justement cet album-là. Et je me suis éclatée à l'écouter, vraiment, à redécouvrir plein de morceaux. Parce que c'est fou quand t'as celui où vous l'avez sorti, là où elle fait la 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 la. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Merci, James.
Out of my head.
Merci. Je perds tous mes mots ce soir. Mais genre, écouter cette version-là avec un piano, un truc, je me dis, ah, c'est pas possible. Et ça ressort trop bien. C'est encore même mieux, je trouve, que l'original.
C'est juste que donc, t'as voilà. Parlé de deux des trois seules chansons que je connais de Kylie Minogue. Donc...
Eh ben, j'ai eu de la chance. Voilà. Et sinon, pour finir, j'adore... Du coup, ça m'a donné envie. Après, je suis reparti sur Galavant. Et j'ai réécouté la chanson de Kylie Minogue dans Galavant. Et donc, je vais me refaire la série Galavant. C'est ça, mon souffle. Et si vous avez l'occasion, vous voyez Galavant, on a fait un épisode dessus. Et c'est j'attends vrai. Que Disney Plus mette cette série sur leur plateforme. Parce que vraiment, on l'avait fait avec Victoire du podcast Adapte-moi si tu peux, qui était aussi très fan de Galavant. Donc j'étais contente de pouvoir en parler. Quoi, parce que c'est un scandale.
T'as un épisode de Geek en série sur Galavant.
Voilà, va écouter XP. Non mais Galavant, en gros, c'est une série.
Non, t'as fait un épisode, tu vas pas.
Vite fait, c'est une série de type comédie musicale, mais voilà, comique, qui se moque un peu des histoires de chevaliers, sorcières et compagnie, et c'est très très drôle, c'est trop trop bien. Et si vous aimez Psych, dedans il y a l'acteur qui joue la sitter dans Psych et qui est génialissime. Voilà,
et on trouve ça où?
Chez et ben malheureusement, je l'ai trouvé chez le tonton des États-Unis parce que Disney ne l'a pas mis sur sa plateforme. Je
ouais,
l'ai
c'est dingue qu'il l'ait pas.
Mais c'est dingue, elle est trop bien. Mais il n'y a que deux saisons, on n'aura jamais la fin de l'histoire, quoi.
Aïe.
Merde.
C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pas mis, s'ils considèrent qu'il n'y a pas assez d'audience. Ouais. Ça, ils ont viré plein de trucs, Disney, de leur plateforme.
Mais à l'époque, c'était passé sur ABC et ils n'avaient pas fait vraiment assez d'exposition et tout. Enfin, je trouve ça super dommage parce qu'elle est vraiment excellente. Terrible. Et. Qu'est-ce que j'ai entendu?
Gaffe. Eh bien, merci, Faye, pour ces deux recommandations.
De rien.
Et allez écouter le Geek en série que Faye a fait sur Galavant avec Victoire. Puis allez écouter Adapte-moi si tu peux, qui est très cool. Je crois que c'est sorti un épisode il n'y a pas longtemps. Non, je dis des conneries, je ne sais plus.
Si, je crois qu'ils ont sorti.
Mais en tout cas, c'est un podcast très chouette. Sur ce... On va passer à la review. Et cette semaine, on vous parle de Superman Lost. Et c'est notre ami Spades, grand fan de Superman devant l'éternel, qui va vous en parler. Vas-y, Spades.
Donc, Superman Lost, c'est une maxi-série en 10 épisodes qui a été publiée à partir de mars 2023 aux États-Unis. Donc, qui arrive la semaine dernière, je crois, chez Urban.
Je crois qu'il est déjà sorti, ouais, il est sorti la semaine dernière.
Il me semble. Et donc, c'est écrit par Christopher Priest et dessiné par Carlo Pagulayan. Donc, pour vous présenter un peu les auteurs, Christopher Priest, en fait, c'est un vétéran du comics qui a commencé sa carrière en tant qu'éditeur chez Marvel en 1978. Récemment, on parlait de la position mixte des éditeurs de comics. Lui, clairement, c'en est un bon exemple. Et c'est aussi, en fait, le premier éditeur noir de toute l'industrie du comics. Ce fait qu'il soit noir, ça va avoir beaucoup d'importance dans sa carrière parce qu'il va beaucoup s'intéresser aux personnages afro-américains. Donc, notamment, en fait, moi, j'ai vraiment découvert lors de son excellent run sur Black Panther, donc un run qui a dû durer 5 ans, je crois, un truc comme ça, et qui était, c'est juste le meilleur run que j'ai lu sur Black Panther ever. Et je suis revenu, en fait, par la suite sur son travail antérieur, notamment son run sur Power Man et Iron Fist, qui était très bien dans les années 80. Il fait partie de ces auteurs qui ont donc participé à la création de Milestone, le fameux label afro-américain de comics. Et chez Valiant, il va créer la série Quantum and Woody. Récemment, vous avez pu le voir sur la série Deathstroke, dans le New 52, dans le Rebirth, je ne sais plus à quelle étape. J'ai un peu perdu le compte dans l'échelle de temps d'essai, on va dire. Carlo Pagulayan, lui, de son côté, c'est un dessinateur pinoy qui s'est surtout fait connaître en tant que dessinateur de Planète Hulk, donc le célèbre event, enfin même pas, c'était une maxi-série qui était donc scénarisée par Greg Land, de Greg Pak plutôt. Et en fait, il a déjà collaboré avec Christopher Priest sur la fameuse série Deathstroke dont je parlais plus tôt. Superman Lost, ça parle donc de Superman, comme son nom l'indique, qui un jour est appelé pour une mission pour la Justice League. Il dit à sa femme Lois qu'il revient tout de suite, et effectivement il va revenir tout de suite, du moins pour Lois, parce que pour lui, en fait, 20 ans se seront passés entre le moment où il est parti et le moment où il est revenu. 20 ans où il a été perdu à l'autre bout de la galaxie, 20 ans où il a essayé de revenir, et en fait Superman a vécu une véritable odyssée pour revenir sur Terre. Et Lois, en fait, elle retrouve un mari qui est ravagé donc par un syndrome post-traumatique, ou vraiment d'avoir vécu loin de tout ce qu'il connaît et ce qu'il aime, ça l'a ravagé intérieurement. Ça m'a évoqué, en fait, un roman de SF qui s'appelle La Guerre éternelle. Je ne sais pas si vous connaissez.
Oui.
Non, oui. Je ne connais pas.
Donc, pour ceux qui connaissent pas, en fait, La Guerre éternelle, c'est un roman de science-fiction qui a été écrit par un vétéran du Vietnam, qui parle, en fait, du premier contact entre les terriens et une race extraterrestre, de la guerre qui va s'en suivre, d'une génération d'élite qui va être sacrifiée pour se battre contre eux, et qui, à cause de la dilatation temporelle, en fait, vont faire une guerre qui va durer 1000 ans. Et 1000 ans, où, en fait, la Terre va changer, mais eux vont rester, en fait, eux-mêmes. Et de plus trouver leur place dans le monde. Et c'est clairement, en fait, le Superman qui revient, il est clairement dans cet état-là. Il a évolué pendant 20 ans et il reconnaît plus, il trouve plus sa place. Et je parlais d'une odyssée, et en fait, le comics met aussi en scène Lois, qui, telle une Pélénope, en fait, va essayer de retisser les liens qu'elle avait avec son mari pour essayer de le ramener à elle, et ça va être très très difficile. Pour moi, c'est un excellent comics. Ça a été vraiment une des très très bonnes surprises de ces derniers mois, et je trouve que scénaristiquement tout se tient. Je retrouve vraiment le Christopher Priest que j'aime beaucoup. C'est beaucoup plus malin qu'il n'y paraît, où c'est très orienté, en fait, sur l'intériorité des personnages. Et graphiquement, j'aime beaucoup le travail de Carlo Pagulayan, qui a un trait on va dire semi-réaliste. J'aime beaucoup sa Lois Lane. J'adore son Superman. Et vraiment, pour moi, c'est un très très bon comics. Quoi. Et vous, qu'en avez-vous pensé?
Je vais prendre la parole. J'ai eu un giga coup de cœur pour ce Superman Lost. Je m'y attendais pas trop et je me suis fait choper par le titre. J'ai trouvé vraiment que les thématiques abordées par le titre était vraiment très très bien. J'ai trouvé que c'était super bien écrit. Faye, peut-être qu'elle vous le dira tout à l'heure, ça lui a fait penser à du Tom King. Et ben moi aussi, ça m'a fait penser à du Tom King, mais peut-être un tout petit plus au-dessus que Tom King au niveau de la, du traitement
En fait, la comparaison, parce que le syndrome post-traumatique, c'est un peu la marque de fabrique de Tom King, la comparaison est obligatoire, mais clairement, je trouve ça largement meilleur que tout ce qu'a sorti Tom King.
Ouais, bon, j'irai pas jusque-là parce que j'aime beaucoup ce que fait Tom King, mais c'est vraiment, si vous aimez la marotte de Tom King, allez-y, je pense que ça va vous plaire, ça va vous parler. J'en ai parlé à plusieurs reprises, mais Superman, c'est un héros que je redécouvre maintenant que j'ai un peu plus mûri, que j'ai un peu plus grand. Quand j'étais jeune, j'aimais vraiment pas du tout Superman. Son côté un peu boy scout m'énervait et je me disais le côté où je suis un espèce de modèle du bien, ça ne m'intéressait pas. Et en grandissant, je trouve que c'est un héros qui a beaucoup plus de nuances que ça, qui a un modèle qui est quand même intéressant. Et en fait, quand tu grandis et quand tu enfin, c'est ce genre de héros dont on a besoin pour nous montrer vers quoi il faut aller, quoi, et vers que malgré tout ce qu'on prend sur la gueule, parce que finalement Superman il en prend plein la tronche, et pourtant c'est quelqu'un qui va rester droit et qui va rester bon malgré tout, et je trouve ça bien. Et je sais pas si tu es d'accord avec moi, Space, mais le bouquin de Priest le montre bien, vraiment, que malgré parce que
une de ses grosses fissures dans le comics qui fait qu'il est inatteignable pour Loïs, c'est qu'en fait, durant son odyssée, il a fait une promesse qu'il n'arrive pas à tenir. Et c'est en train de le briser totalement, quoi. Et c'est vraiment, en fait, moi, un des trucs que j'ai toujours aimé sur Superman. Superman, c'est le mec qui va essayer de sauver tout le monde tout le temps. Et s'il échoue, ça le brise pas pour son ego. C'est pas non, j'ai échoué, c'est ça le brise parce qu'une personne est morte parce qu'il a pas réussi à être là à temps. Et clairement, là il l'a très très bien fait, Christopher Priest.
Mais vraiment, c'est un titre que je vais recommander fort fort fort. Je vais essayer de pousser parce que vraiment j'ai trouvé ça génial. Les dessins sont cool, c'est pas le truc que je retiendrai. Forcément, c'est le truc qui m'a le plus marqué du titre, mais ça fait clairement le taf et c'est du très bon dessin mainstream, c'est sans aspect péjoratif. Donc ouais, vraiment, j'ai vraiment passé un super moment en lisant ce titre que j'ai lu d'une traite sans voir le temps passer. Donc voilà. Je sais qu'il y a une personne qui n'a pas apprécié ce titre, donc je me la garde pour la fin et on va demander à Faye ce qu'elle en a pensé.
Oui, j'ai beaucoup aimé ce titre aussi. Effectivement, voilà tout le rapport. Moi, quand j'ai vu que ça me faisait penser justement à l'Odyssée, j'étais là, oh, j'adore cette histoire. Donc voilà, j'étais trop contente. En plus, je trouve que ça marche vraiment bien justement entre Lois et Clark. J'aime bien leur alchimie dans l'histoire. J'aime la force de Lois qui essaye vraiment, mais tout ce qu'elle peut pour pouvoir l'aider, pour pouvoir le ramener. Et je trouve ça intéressant de voir justement quand t'es parce qu'on parle souvent des gens qui sont atteints de PTSD ou même des gens qui sont malades ou choses comme ça, à quel point c'est dur pour eux, mais c'est aussi dur pour les gens qui les accompagnent. Et je trouve que l'histoire arrive à montrer bien ces deux points de vue, parce que c'est à la fois super dur pour Loïs de voir la personne qu'elle aime comme ça, et elle a beau essayer de faire plein de choses, il y a plein de fois où vraiment elle se sent limite impuissante, et on voit que ça la ronge aussi. Donc ces deux personnages qui sont rongés par leur culpabilité, leur problématique et tout, et je trouve ça passionnant de les voir évoluer en parallèle. Ensuite, au niveau de Superman, pareil, j'ai beaucoup aimé tout le parcours du personnage, et encore une fois, on a un peu aussi une analyse de ce fameux syndrome de Superman où on a envie de sauver tout le monde, mais on se rend compte que dans la vie on peut pas avoir le contrôle sur tout, et des fois il faut l'accepter, et c'est très très dur. Et même si il se donne à fond et tout, lui il n'arrive pas à passer outre. Et pareil, je l'ai trouvé ça hyper touchant. Enfin, vraiment, je l'ai trouvé. Il y a des fois, tu vois, limite, j'avais beaucoup de peine pour lui. Donc, voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé le côté un peu science-fiction avec les paradoxes temporels. On en parlait.
Essayez de pas trop spoiler.
Non, mais Je veux dire, on en parlait un peu avant l'émission, je t'avais cité le film Interstellar, vous verrez pourquoi. Ouais. Mais voilà, donc j'ai trouvé ça super cool. Par contre, c'est vrai que des fois, il y avait des moments où il se passait plein de choses et j'étais un peu perdue sur la temporalité. Donc bon, après, j'ai un peu relu calmement et tout pour voir, parce que des fois, quand on lit, qu'on se prend dans l'histoire, on va des fois un peu vite. Donc c'est vrai que des fois, je suis un peu revenue. Donc ça serait un chouïa, un petit, voilà, un tout petit... point négatif que je mettrais, mais vraiment à part ça je l'ai trouvé passionnant. J'ai pas pu décrocher de ma lecture avant la fin, donc voilà, c'était vraiment un bon coup de cœur, surtout après les titres qu'on a lus précédemment qui étaient pas fous. Là vraiment ça fait du bien de voir quelque chose d'intelligent, de voir quelque chose voilà, qui est touchant aussi et qui montre ces personnages. Effectivement, tu disais James, il y a beaucoup de gens, moi aussi j'étais comme toi, où j'étais prise dans une espèce de vision, voilà, de préjugés sur ces deux, enfin sur ce personnage-là. Lois, je l'aimais quand même déjà un peu plus, mais c'est vrai que bah là, je suis contente qu'on voit d'autres facettes et ça peut peut-être pourquoi pas aider des gens à avoir une connexion avec Superman et après aller découvrir bah tout ce qu'il y a autour de lui, parce que finalement, c'est vrai que maintenant, bah surtout grâce à Spes, hein, je le dirai jamais assez, j'ai appris à aimer et à redécouvrir le personnage et voilà, là j'étais vraiment vraiment touchée par cette histoire et c'est vrai que j'avais dit à James, ouais, ça plairait à Tom King. J'ai pas dit que c'était mieux que Tom King, hein, James précise, mais c'est vrai que les thématiques sont assez proches de ces thèmes fétiches. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Écoutez,
mais c'est vrai, tu le mentionnes. Si vous connaissez pas bien le personnage de Superman, bon, ça fait un moment qu'il n'y a plus eu d'épisode, mais le comics fair sur Superman, il est passionnant, ouais. Il est vraiment très très cool. Moi j'ai appris plein de trucs dans cet épisode, donc si vous l'avez pas écouté, on le mettra dans la description si j'y pense, mais vraiment ça peut être l'occasion de découvrir un peu le contexte autour du personnage, et le contexte qui est tout aussi passionnant que le personnage. Donc vraiment, si vous avez l'occasion, écoutez le comics fair sur The Spades.
Honnêtement, dans ce comics fair, on avait fait un inventaire des comics à lire. Franchement, moi, Superman Lost, Up and Away et Superman Smash the Clan, c'est peut-être les seuls comics Superman de ces 10 dernières années que je mettrais, que je rajouterais dans cet épisode.
D'accord.
Vraiment, il a sa place dedans.
Il y a un autre truc que tu as mentionné que je trouve, dont je n'ai pas parlé et que je trouve cool, c'est que tu mentionnais Lois. Et moi, depuis, encore une fois, je découvre au fur et à mesure Superman, donc peut-être que le titre parlera peut-être pas à ceux qui connaissent depuis longtemps, mais moi j'ai redécouvert Lois grâce à Lois Lane Public Enemy et je découvre que, en fait, c'est un personnage tout aussi passionnant que l'est Clark, et qui apporte des thématiques super cool. Je sais pas si tu voulais
Ah non, mais elle est badass, quoi. Enfin, je suis désolée.
Ouais, elle est super cool.
C'est génial parce qu'il y a la vulnérabilité qui se dégage de ce personnage, mais c'est aussi une force. Et ça, je trouve ça super cool parce qu'on n'est pas trop dans l'archétype où on te montre une femme forte, tu vois, qui a aucune faille, qui est genre, tu vois, Ellen Ripley et tout. Alors que non, une femme forte, c'est aussi une femme qui n'hésite pas à montrer sa vulnérabilité, à s'en servir. Et voilà, moi, je la trouve intelligente, je la trouve drôle, je la trouve charismatique, Lois. Enfin, voilà, c'est un perso que j'aime beaucoup.
Et je trouve aussi que le comics, il utilise très bien et à bon escient tout l'univers de DC, puisqu'au final on voit beaucoup de personnages et je trouve que c'est assez cool et qu'il le traite bien, même que on aperçoit Lex Luthor, on aperçoit Batman, il y a la Justice League qui et à chaque fois je trouve que c'est pertinent et c'est pas, il y a pas genre ah oui regardez, je vous ai mis un petit caméo dans une page pour vous faire plaisir. Je trouve que c'est plutôt bien foutu et plutôt intéressant. Je sais pas si Spade, t'as eu le même sentiment.
Si, en fait, quand je parlais de l'Odyssée, c'est vraiment par rapport à ça. Donc, on a d'un côté tout l'Odyssée de Superman durant ses 20 ans, mais on a aussi l'attente de Lois qui attend que son mari revienne. Physiquement, il est là, mais pas mentalement. Et oui, tout cet élément de la cour d'Ithac, et je pense que c'est volontaire, hein, si Christopher Priest a pris un délai de 20 ans, qui est le délai qu'a mis Ulysse pour retrouver Ithac, c'est pas une coïncidence pour moi.
Mmh. Ouais, c'est un hommage, une référence assumée, ouais.
Ah, oui.
Assumée clairement, quoi. Lunak, toi, qu'est-ce que t'as pensé de ce Superman Lost? Du coup, petit trigger warning, je préviens, j'en ai parlé à Luna très tard, donc elle a eu vent, elle a lu le titre assez tard.
Ouais, je l'ai lu aujourd'hui. J'ai lu qu'elle a moitié. Et alors la lecture, elle était pas super fluide parce que ça relève un peu de la science-fiction, du temps et tout ça, des voyages dans le temps.
Ouais.
Mais les graphismes sont super réussis. Mainstream, certes, mais c'est tout à fait beau à lire. C'est super intéressant. Mmh. Et après, ça m'a fait penser... vous en parlez tout à l'heure de redécouvrir le personnage de Superman. Moi, j'avais les mêmes préjugés que toi, James. Et j'ai commencé à redécouvrir avec Man of Steel, avec le côté alien et les retours à l'origine et tout ça. Et c'est vrai que ça peut être un personnage intéressant.
Et ça t'a donné envie de découvrir d'autres histoires de Superman ?
Du coup, cette lecture, elle est vraiment agréable. Mais c'est aussi un peu angoissant parce que ce qu'il vit...
C'est pas facile,
le stress post-traumatique, entre les allers-retours, mais quand il est dans, comment dire, parce qu'il y a la temporalité des 20 ans qui passent ailleurs et la temporalité de quand il revient les quelques jours après qu'il soit revenu. Quand il est dans les 20 ans, donc dans le passé, on va dire. C'est très angoissant aussi parce que c'est cette quête de... Il y a un passage où il dit j'étais assez auto-centrée, j'ai pas remarqué ce qui se passait autour de moi. Il y a des côtés très, très angoissants.
Mais c'est vrai, en plus t'as raison parce qu'on voit qu'il est assez traumatisé, puis il y a toujours ce truc qui revient où souvent Louise va lui dire respire, et on comprend qu'il a vécu des choses qui étaient assez stressantes. Il y a des moments où il a dû retenir sa respiration pendant un moment, enfin il a vécu beaucoup d'événements traumatiques, et effectivement aussi il y a des choses qui fait que ça lui a ouvert les yeux, qui s'est aussi qu'il a réfléchi sur lui-même, et enfin c'est t'as raison, il y a plein de fois moi aussi je pense que j'aurais été mal, il y a des scènes où même moi j'avais du mal des fois à respirer.
Oui.
Et je me disais, oh là là, le truc.
Oui, ce qui montre qu'il s'est bien écrit, quoi.
Ouais, ouais.
Le tiraillement qu'il y a entre le moment où, sans trop vous en dévoiler, et un moment où, du coup, il est perdu dans l'espace, et du coup, il cherche à tout prix à retourner sur Terre. Et ce tiraillement entre je veux retourner sur Terre, mais en même temps, il se passe des choses devant moi, et je peux pas y rester.
C'est limite le dilemme cornélien, parce qu'il est partagé entre amour et devoir, donc encore une fois, c'est.
Et je trouve ça vraiment bien écrit.
Et c'est pour ça, en fait, que je suis aussi le rapprochement avec la guerre éternelle, parce que la guerre éternelle, comme je disais, c'est un vétéran du Vietnam qui l'a écrit, et ce qu'il relate dans son bouquin. Malgré le fait que ça soit un récit de science-fiction, c'est ce que lui, il a vécu, tout le sentiment en fait de déconnexion qu'il a eu avec le monde et de toutes les atrocités qu'il a été obligé de faire pour un monde qui en avait pas grand-chose à faire, quoi. Et là, vraiment, c'est le sentiment qu'a le Superman une fois qu'il revient. Il est parti pendant 20 ans. Il y a des gens à sauver qu'il ne peut potentiellement plus sauver. Et c'est en train de le déchirer réellement, et alors que tout le monde autour de lui s'en fout. Tout ce qui compte pour Loïs et pour Bruce Wayne, c'est que lui aille bien, quoi. Et c'est vraiment, en fait, ce déchirement entre le devoir et son égoïsme primaire, quoi.
Et ça montre bien le décalage entre les gens qui vont dans le... Donc, on parle de guerre, qui vont dans la guerre, et les gens qui restent dans le pays.
Voilà, tout à fait.
Ouais, ouais. Donc ça montre bien ce côté-là. C'est très alien et c'est très humain en même temps. Je sais pas comment.
Si, mais je vois ce que tu veux dire. Et moi, je vais vous dire, attention, je l'ai pas fait encore, citation Tolkien. Mais ça me fait penser un peu quand justement Frodo revient en Terre du Milieu et il a beau être là physiquement, mais mentalement, il est encore resté au Mordor, quoi. Et il y a tout ce décalage où en fait, les gens, ils ont l'impression que le gars, c'est limite une statue. Enfin, même lui, il a l'impression de vivre les choses comme s'il les ressentait pas, en fait.
Ouais,
et des fois, c'est clairement ce qui arrive à Superman dans cette histoire-là.
Et même moi, je fais des liens. Sur le Seigneur des Anneaux, le changement de Merry et Pippin entre le début du bouquin et la fin, quand ils reviennent et qu'ils sont devenus, ils sont devenus des seigneurs de guerre, quoi, au sein de la comté. Et le truc, les gens ne comprennent pas ça, mais personne ne peut comprendre ce par quoi ils sont passés.
Oui,
et,
c'est ça.
C'est ça, quoi.
C'est le pouvoir de la fiction, c'est aussi d'aider à ces gens, amener les gens à ces genres de réflexion.
Mais si vous avez jamais lu La Guerre éternelle, il existe une version en BD aussi qui est faite en partenariat avec le romancier Drew Alderman. Je me rappelle plus qui c'est le dessinateur, je vais vous retrouver ça dans quelques instants. Mais moi, j'avais découvert par la BD à la base et ça vaut vraiment le coup d'être lu.
C'est intéressant.
Mais je trouve qu'il y a un sentiment d'empathie en fait qui ressort de cette histoire.
D'ailleurs, il y a un petit passage avec Kara, Supergirl. Et je trouve que c'est intéressant quand on a lu, quand on connaît le personnage de Supergirl et encore plus quand on a lu Supergirl Woman of Tomorrow. Le fait de, en fait, elle l'avait, enfin, ce que vit un peu dans une autre mesure Superman, elle l'a vécu puisqu'elle a vu Krypton tomber et elle a le souvenir de Krypton qui est morte alors que Clark l'a pas du tout et du coup elle doit vivre encore avec ce poids là et du coup je trouve que enfin le fait qu'il y ait un lien avec ces qu'ils en discutent et tout, j'aurais aimé qu'ils en parlent un peu plus parce qu'ils le formalisent pas tant que ça tous les deux, mais j'ai trouvé ça intéressant.
Ouais,
c'est cool. Bon, je vous en ai parlé tout à l'heure. On va arriver au moment où je suis désolé pour Angel qui n'a pas apprécié comme autant que nous apparemment le titre. Je vais te laisser donner ton avis, Angel.
Alors moi, c'est une grosse déception. C'est un titre en fonction du résumé, j'en attendais beaucoup et je pense trop. Je m'attendais à un titre plus centré sur l'homme que sur le super-héros, parce que le côté de perdu ailleurs pendant 20 ans, alors qu'il s'est passé que quelques secondes, enfin quelques minutes plutôt sur la Terre, ça pouvait amener vraiment à des choses super intéressantes. Et le traitement qui a été fait, moi, j'ai trouvé qu'il n'y a aucune prise de risque. On nous ressort toujours les mêmes clichés. Le coup de la Green Lantern, où on te fait croire à quelque chose que finalement, il n'y a pas. Et on joue avec ça deux, trois fois. Du genre, ah, peut-être que... Ah non, ah, bah si, regarde, ah bah non. Et c'est un truc cliché. C'est un truc que tu vois dans plein de comics. T'as Flash qui a eu ça dans le run de Jeff Jones. T'avais Iceberg qui a aussi eu ça à un moment donné. Et c'est fatigant de revoir toujours les mêmes cordes comme ça. Même cordes scénaristiques. C'est un récit aussi, je trouve, qui est brouillon à certains moments. Quand il revient, à un moment donné, il trouve quelque chose dans la salle de bain. Alors, j'ai pas compris cette scène, il trouve quelque chose dans la salle de bain, tu vois Loïs qui est malade, c'était pas clair du tout, heureusement qu'elle l'explique plus tard. Hein. Plus tard, elle t'explique le pourquoi du comment, mais tu dis, ah d'accord, c'est pour ça. Il y a trop de choses. La partie avec Lex Luthor et Loïs, je vois pas ce que ça vient foutre là. Loïs aussi qui est du coup sur une enquête, bah, je trouve que ça sert à rien. Beaucoup de remplissage pour moi. La partie de la Justice League qu'on nous présente, on revient souvent sur la partie de comment il a été emmené et c'est chiant. Autant le présenter une fois et c'est tout, et ça revient plusieurs fois. Pareil, remplissage. Putain, il y a plein de trucs à dire. ouais, le côté... La Terre où il se retrouve, elle est aussi... Ça manque d'imagination. Il se retrouve sur un monde, t'as l'impression que c'est New York post-apo et le Kansas. J'ai pas senti la temporalité passer. À un moment donné, bah, il y a un an qui s'est écoulé, ok, c'est ce qu'il nous le dit. Il y a cinq ans qui s'est écoulé, ok, parce qu'il nous le dit. Lui, sur lui-même, on ne voit rien au niveau du temps. Tu le revois après dans une ferme en train de faire sa vie, tu comprends pas trop. Voilà, ça fait cinq ans. Bon, il a décidé de se créer sa propre petite ferme sur l'autre planète et puis basta. Au niveau des PTSD, au début, je trouvais ça intéressant, mais après, pour moi, ça n'a pas de sens. Parce que son seul problème, c'est qu'il est revenu, mais pour repartir. Il n'y a pas le côté, en réalité, il n'a pas vraiment vécu des choses si traumatisantes que ça. Et il veut repartir. Le gars veut simplement repartir. Et j'ai eu l'impression de revoir le premier épisode de Arrow, où tu voyais le gars qui... Dans le premier épisode de Arrow, il y a une scène où justement pour te montrer que le gars, bah, il a vécu 5 ans sur une île, il a vécu des trucs, il dort par terre au lieu de dormir sur son lit, il fait des cauchemars. Mais c'est le seul moment où ils exploitent ça dans la série et ça n'a aucune logique parce que t'apprends que le mec, il n'était pas seul sur l'île et qu'il n'est pas resté 5 ans sur l'île. Donc c'était juste une excuse. Et là, moi, je l'ai ressenti exactement pareil dans le bouquin. Parce que tout ce qu'il voulait en réalité, Clark, c'était revenir pour repartir et sauver l'autre monde. Donc je vois pas pourquoi à un moment donné il est en train de dormir par terre. C'est plus
qu'il déprime, mais c'est pas.
Non mais c'est une crise d'angoisse en
oui,
fait.
C'est
il
une
fait
crise
des crises d'angoisse
effectivement. Oui. Je pense que le truc de Arrow c'est une référence à Homeland où il y avait ce délire là avec.
Arrow c'était l'excuse d'essayer de te montrer quelque chose que le gars il était ouais. Voilà pas bien, mais c'est pas développé.
Enfin, la comparaison avec Arrow elle fait mal.
Mais je pense qu'il savait pas à l'époque. Mais je pense qu'à l'époque, Arrow, il savait pas. Mais par contre, pour ce que tu disais sur Loïs, moi, je trouve que la mise en scène, elle était plutôt claire parce qu'on te montre d'abord une scène où elle discute avec quelqu'un.
Essayons de rester vague.
Non, je dis pas. Et après, il y a cette découverte-là. Le lien se fait direct. Après, moi qui aime bien savoir un peu plus, j'ai tapé le nom de quelque chose sur Internet pour savoir précisément. Voilà. Donc, j'ai eu une info plus précise. Mais j'avais quand même compris le truc grâce à cet enchaînement de cases.
Je vois même pas de quoi vous parlez tellement moi j'ai trouvé ça clair quoi en fait.
Trouve quelque chose. T'as une case où tu vois, alors je savais même pas si c'était la main de Clark, où il trouve quelque chose et après il va voir Loïs qui est dans son lit et qui est pas bien. À ce moment-là, je cherchais la main, je me disais c'est la main de Clark, ça. Je pense que c'est la main de Clark, elle est assez épaisse. Et tu dis mais pourquoi il y a ça.
Si on veut pas trop spoiler, s'il vous plaît.
Et après,
on dira en.
De toute façon, pour moi, si après à la fin, Loïs elle explique le tout, tu dis ok. Si elle explique, c'est qu'à la base c'était pas clair, elle aurait pas eu lieu d'expliquer. Donc c'était pour moi.
Moi j'ai trouvé ça clair.
L'explication, elle m'a juste confirmé ce que j'avais pensé en voyant la case de base. Quoi.
Moi je comprenais rien. Je me dis ok, et je me suis dit il met trop de trucs là. Si vraiment ce qu'il a trouvé.
La temporalité, tu dis, on te signale. Oui, mais si on devait te raconter 20 ans d'une vie où t'as quand même 90% de trucs chiants.
Il y a des trucs, il n'y a pas besoin de marquer il y a tant de temps ou de l'expliquer. Ils arrivent à quand même montrer la temporalité. Là, il n'y a pas. Et le fait que c'est trop, trop proche de la Terre, l'endroit où il est, ils auraient pu trouver quelque chose de original.
Mais après, si tu regardes là où il est, Clark, il vieillit pas comme nous. Donc c'est sûr qu'on va pas voir le temps passer là. Et puis aussi quelque part aussi c'est que il va aussi quelque part recréer son truc natal pour peut-être se rapprocher quelque part aussi. Enfin c'est encore une fois je renvoie à Interstellar.
Voilà, peux dire quelque chose par rapport à ce côté de recréer. C'est une analogie à Robinson Crusoe. Quand il se retrouve dans l'île, il va reproduire.
La maison, c'est sur Wilson. Ouais.
Ce qu'il connaît
La planète d'origine, quand il arrive à l'endroit là où il y a les espèces de gamins, t'as l'impression que c'est un New York. Après, t'as l'impression qu'il est sur la forteresse de solitude. Derrière, il y a le Kansas. Donc, c'est vraiment, tu te dis, ok, bon, il s'est pas fait chier, il a pris des références, des trucs.
Ouais, mais il y a un autre événement qu'on peut pas spoiler qui peut peut-être expliquer ça, mais je te dirai en off. Enfin, moi, je l'ai interprété parce qu'il y avait cet autre élément, mais ça m'a pas gêné et je trouvais ça logique que quelque part, il cherche à se rapprocher d'un endroit qui lui rappelle son chez lui pour, quelque part, comme tu disais, espèce, ne pas sombrer. Et après, pour Loïs, toute l'arc avec Loïs, Lex Luthor, je pense que Loïs, elle est tellement. Aux abois qu'elle cherche n'importe quel moyen pour faire réagir Clark. Et c'est vrai que des fois, quand t'es dans la position de Loïs, ça arrive que c'est pas la bonne solution. Tu fais des choses parfois extrêmes pour faire réagir l'autre en disant si je le secoue, si je le machin, ça va aller mieux. Tu vois, c'est comme quand t'es en dépression, quand te secoue, t'en dis t'as qu'à rigoler, ça ira, ou t'as qu'à sourire, c'est bon, ça passera. Tu vois, au bout d'un moment, tu sais plus quoi faire. Et il y a des fois, tu fais des trucs méga extrêmes. Enfin, moi, je comprends le.
La partie avec Lex, donc il y a un truc, la résolution, c'est c'était juste ça, d'accord. Et la fin du comics, Mais quand à un moment donné tu vois Loïs qui se réveille, je me suis dit
reste
bon, pas nous,
attention,
vont pas nous faire un truc à la
attention.
Dallas. Et on n'est pas loin quand même. Je me suis dit c'est quoi mais cette c'est... fin. Et c'est voilà, je pense vraiment, moi j'en attendais trop, je m'attendais vraiment à quelque chose. Et il y avait aussi avant de voir le comic, j'avais vu une page où tu voyais ce personnage féminin, cette Green Lantern avec Clark. Donc je m'étais dit bah c'est vrai qu'il y a 20 ans, peut-être que il peut avoir des sentiments pour une autre femme. Parce que il sait pas, lui, que les 20 ans qu'il vit...
Ben non, c'est Superman.
Oui, mais il sait pas les 20 ans qu'il vit... Alors, j'ai dit tomber amoureux, pas forcément coucher avec ou quoi. Tu peux tomber amoureux de quelqu'un.
Oui, mais
dire,
justement,
non,
c'est
je...
Superman.
Voilà.
Il n'y a qu'une femme dans sa vie.
Oui, mais il pouvait tomber amoureux d'une autre femme, toujours aimer Loïs,
oui.
Et ne pas franchir de ligne, se disant « Non, je veux rester fidèle à ma femme. » Mais y a... lui, il sait pas que ses 20 ans à lui ne sont pas égales à 20 ans sur Terre aussi. Parce qu'à
oui,
un moment donné, ça fait un an.
Pour lui, ça changerait pas.
Bah oui, mais.
Même si c'est passé 20 ans, pour lui, ça change rien.
Quand
du
il
tout,
va revenir, s'il serait revenu, qu'il se serait passé 20 ans, Loïs, déjà, pouvait ne plus être là. Elle pouvait être mariée à quelqu'un d'autre. Il y a plein de trucs qui auraient pu se passer. Donc, c'est, voilà.
Oui, mais ça.
Clairement,
oui, mais ça change pas le
ça
problème.
Ça reste Superman
oui,
et Loïs.
Mais justement, ah. À un moment, tu vois le futur du Superman. Du Superman qui est revenu. Tu vois son futur très très éloigné et justement là on parle de son mariage qui a peut-être pas marché et compagnie potentiellement. Il y a en fait tout ce que tu reproches est pourtant mis clairement dans le comics quoi. Donc c'est ça que je comprends
non,
pas.
Non, moi j'aurais voulu vraiment une autre histoire. Moi je m'attendais vraiment à une autre histoire.
Ah bah oui, mais ça faut lire autre chose
humaine.
Dans ce cas-là quoi.
Non,
dans ce
cas-là. C'est quand tu lis le résumé derrière, tu t'attends
moi tu vois, la semaine prochaine, vous allez faire Power Rangers. Moi, de base, j'en pense que du mal. Je vais pas le dire, quoi.
Oui, non, pas, quoi. Alors, le récit, la Superman, tant que tu le lis pas, tu peux pas savoir. Je me base en fonction
oui.
du récit.
Ah oui, non, mais moi, Power Rangers... Pour moi, Power Rangers, le récit, je sais qu'il sera déjà mauvais pour moi, donc je sais que je vais pas y aller.
Mais
quoi.
Par contre, ce que je sais de comment, c'est pourquoi tu dis que c'est pas humain, parce que finalement, moi, je l'ai trouvé très humaine, cette histoire, même si ça se passe dans l'histoire, je trouve que on a plus le côté humain qui est exploité
que le côté
Superman.
Pour moi, c'est le côté Superman qui est prêt à sacrifier son mariage, sa vie, pour sauver un autre monde. Moi, je m'attendais à, vraiment, en lisant le résumé, enfin, le résumé global, je m'attendais à avoir un Clark qui est prêt à tout pour retrouver sa vie. Donc, vraiment, le côté humain à
l'inverse.
Je laisse cette planète, même si elle est dans le besoin, je vais être égoïste et je veux.
Ouais,
tout
mais du coup, c'est pas Superman.
Mais ça change.
Bah oui, Superman, il est pas comme ça.
Ça serait différent. C'est...
Oui, mais tu peux pas trahir.
Pas c'est dans l'ADN de Superman d'être comme ça.
C'est justement l'intérêt, c'est le déchirement entre le devoir et son amour pour Loïs. C'est là vraiment qui est l'intérêt du comics pour moi.
Non,
c'est comme si tu disais un titre Batman en disant mais je voudrais le voir en train de tuer, en train de prendre une arme.
Alors Batman avant il avait des armes donc.
Oui, ouais,
Batman
non mais tu vois ce que je veux. Tu vois ce que je veux dire.
Donc ça rentre pas.
Non mais en fait toi ce que tu j'entends ce que tu dis mais c'est vrai que s'ils avaient fait ça, moi ça m'aurait pas plu parce que ça aurait été quelque part une trahison de la caractérisation de Superman et ce qu'il représente. Donc en fait, c'est peut-être plus le perso de Superman que t'aimes pas.
Non. Par exemple la série, moi, le Superman que j'adore dans les trucs, j'aime pas Man of Steel ou quoi, le Superman de la série qu'il y a sur la CW, je le trouve super humain. Il a ses côtés faiblesses, il arrive des trucs dans sa famille, malgré tous ses pouvoirs, il peut rien y faire. Je pense que dans la série, il devrait choisir entre les siens ou le monde, ils choisiront les siens. Donc il a ce côté vachement plus humain.
J'aime beaucoup la série de CW, et je suis pas si sûr que toi. Honnêtement, je pense qu'il se sacrifierait quand même pour essayer de sauver tout le monde. Et c'est exactement ce que fait le Superman ici, quoi. Essayer de se sacrifier pour tout le monde.
Ah oui, moi je suis d'accord. Je trouve que le perso de la série et de ce comics, moi je vois le lien entre eux. Et puis même si tu prends la série, si tu regardes ses relations familiales, au début quelque part ses enfants lui reprochent de choisir son métier de Superman plutôt que la famille aussi. Ça fait des tensions. Donc, enfin, je sais pas, c'est tout le propos de Superman où il est toujours, il est en souffrance entre ces deux rôles-là.
Là, c'est bon, c'est le fait aussi du côté budget. La série, on va plus voir Clark que voir Superman. La série se consacre beaucoup plus dessus. parce que c'est sûr que ça coûte moins cher d'avoir l'acteur avec sa chemise à carreaux et ses lunettes que de l'avoir en costume et de voler. Et j'aime ce côté beaucoup plus humain. Pour moi, là, dans le comics, je m'attendais vraiment à quelque chose de plus humain. C'est moi qui avais placé vraiment mes
attentes. En fait, tu voudrais un truc plus vie quotidienne, en fait.
Oui, par exemple, pourquoi il a ses pouvoirs? Ça aurait été bien qu'il tombe sur une planète et qu'il ait plus ses pouvoirs. Là, il aurait vraiment été dans la merde.
C'est clairement tout le long du bouquin.
Mais non, il a ses pouvoirs, il a sa combinaison.
Il les perd au fur et à mesure. On lui crée un substitut qui n'est que temporaire. Et justement, mais t'as vraiment pas compris en fait le comics, quoi.
Parce qu'il perd ses pouvoirs. Je rentrais plus dedans. Parce que j'ai trouvé
Vraiment, t'as pas compris de la moitié du comics, quoi. Clairement, en fait, le truc, c'est qu'au fur et à mesure de son odyssée, ses pouvoirs s'érodent, quoi.
Ils lui disent à un moment, fais attention, on va pas là, parce que justement, tu perds tes pouvoirs. Et lui-même, ça le stresse, parce que plus il perd ses pouvoirs, plus il se dit qu'il n'aura pas de chance de retourner chez lui.
Il les perd petit à petit. Là, je parlais de vraiment, il arrive et c'est un simple humain, un simple mortel. Le gars, il peut pas du tout.
Oui, mais il faut le temps qu'il se décharge, c'est comme une pile.
Le fait d'être resté, je pense, un an dans l'espace à faire des allers-retours, la batterie, c'est bien abîmée. Hein.
On parle de physiologie kryptonienne, il n'y a pas de réalisme.
C'est les pieds du Russell, c'est comme le lapin.
Rien que dans le comics, enfin là, le fait aussi que tu sais pas trop où il est situé, qu'il lui faut tant de temps pour traverser, donc je sais pas combien de kilomètres il a traversé en un an, et que des fois t'as des histoires où il va traverser la galaxie en quelques secondes en volant.
Après, s'il passe près d'un soleil...
C'est l'histoire-là que je trouve débile. Donc, franchement, les épisodes où il est capable de faire la Terre Krypton en trois secondes, moi, j'ai toujours trouvé ça complètement débile, quoi.
Les scènes où il était dans l'espace étaient très angoissantes.
Ah, mais grave.
Le vide,
Il y a des dauphins. Saloperie de dauphins.
Ah, c'est les dauphins. C'est vrai.
Ça, j'ai cru que c'était le dessin animé Titanic.
Tu disais sur le Discord aussi que t'as pas aimé le dessin du titre non plus.
C'est pas moche, hein, mais c'est pas non plus, ça te détruit pas la rétine. Enfin, c'est le genre de comics.
Ouais, on a tellement diamétralement opposé, toi et moi, c'est trop drôle.
Et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien dans l'émission.
C'est le truc. Je l'ai attaqué. Tu dis on va voir. Puis tu dis d'accord. Puis je me dis heureusement que j'ai fait l'émission que j'ai lue, parce qu'à la base j'avais prévu de l'acheter. Donc je me fais des économies.
Tant mieux. Mais je me demande si tu laisses un peu passer le temps et peut-être lui redonner sa chance dans un an ou deux avec.
ça arrive des fois. Des œuvres comme
il
ça, on a des rejets.
De toute façon, faut pas insister. Quand ça passe
Ah non, quand c'est à une lecture que tu subis carrément, que ça te saoule de lire le truc, c'est pas pour aller te le relire même dans quelques mois. C'est un truc que t'arrives à lire et que t'as pas trop apprécié, pourquoi pas. Un truc que tu galères à lire, que t'as qu'une seule envie, c'est de poser le bouquin, ça sert à rien.
C'est marrant, je pensais vraiment pas
Mais regarde, c'est marrant parce qu'il y a des BD qu'on n'a pas aimé dans les autres épisodes et qu'Angèle elle l'a aimé, tu vois, c'est rigolo en fait. On n'arrive pas à être synchro.
Il a tellement souffert à lire Doctor Who la semaine dernière.
Non mais tu sais, il y a des fois genre.
Non, il y a des trucs, c'est tout con. Si des fois il y a des choses style Dark Ride où moi je lis pas le résumé du tout, j'attaque le truc, j'en attends rien. Bah finalement tu dis c'est pas si mal, et des trucs tu en attends trop. Finalement.
Ah non, mais moi Dark Ride j'en attendais rien, j'étais déçu quand même.
Pareil. Non mais c'est marrant. En fait, il y a des fois où on arrive tous à être synchro.
Ouais.
Et des fois, non.
C'est normal. Hein.
Ouais.
Oui, non mais oui. C'est une question de goût, hein. Ça se discute.
Moi, je pré-shot. J'attends vraiment rien de Power Rangers Go la semaine prochaine.
Ah, moi, je veux des couleurs.
J'espère que je serai surpris.
On avait bien aimé celui qu'on avait fait de Boom Studio, qui était sympathique.
Oui, c'est vrai. C'est la suite de.
Si t'as aimé.
C'est pas la suite. C'est préquel.
C'est préquel. Eh ben alors voilà.
C'est encore mieux.
On fera karaoké.
Du coup, à moins que quelqu'un d'autre ait un truc à rajouter sur ce titre. Contrairement à Angèle, je recommande très très fort ce titre au point. Et peut-être on va avoir droit au premier et au dernier coup de cœur de Spades.
Non, toujours pas.
Ah, bon, bah vraiment la barre est vraiment trop haute pour le coup. Ah, car...
la barre est inatteignable, c'est tout simplement. Donc...
Mais ça sert à rien que je mette un coup de cœur alors.
Oui.
Mais
ne...
baisse ton James.
Moins fort, tu vas saturer après.
Oui, pardon. Baisse ton le baromètre. De...
Mais il est seul, voilà. Ce garçon. Oh, chacun parle avec.
Mais du coup, ça sert à rien qu'on ait un.
Bah, si, et si, ben si, t'as qu'à enlever cette rubrique 5. Et puis voilà.
Si on est deux à pas mettre de coup de cœur, ça fait 3, donc vous avez la majorité.
Et bah voilà.
Voilà.
Faye.
Plein. Et ben oui, pour moi, ça a été un coup de cœur. Voilà. Allez.
Et ben moi aussi, ça a été un coup de cœur, ce Superman Lost. Angel.
Non. Parce que économiser 24 euros.
C'est vrai qu'on l'a pas dit, ouais, c'est 24 euros chez Urban Comics, n'hésitez pas.
Ah bon, moi je pense que c'est 24
euros. Et Luna ?
Alors, moi j'ai pas fini, donc. Mais j'ai envie de finir.
En suspens.
D'accord, bah tant mieux.
J'ai envie de finir, c'est pas un coup de cœur, mais c'est pas. J'aime bien.
C'est un demi-coup de cœur.
Ok.
Demi-coup
de cœur.
Bon, bah.
N'hésite pas à nous dire si quand t'as fini ta lecture, ça devient un coup de cœur ou pas.
Alors je trouve un nouveau baromètre pour Spades, on verra ensemble.
On a qu'à faire, moi je trouve qu'on devrait faire une notation avec des chats.
Non,
on met un nombre de chats, un chat à 5 chats.
La notation de Thor 4 à 10.
Ah oh, oui, moi c'est mon baromètre de conneries Thor 4, hein, vraiment.
Ouais, non, pitié.
Ah si.
Donc, bah, merci de nous avoir écoutés.
Bah, ouais. Justement, ne l'aie pas. Ne le vois pas parce que ça va t'énerver.
Oh non.
Bah merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. La semaine prochaine, on va chez The Mighty Morphin Power Ranger. J'espère que.
Pourquoi tu prends un accent bizarre?
Je sais pas, parce que je trouve ça stylé. Je trouve ça stylax, les Power Rangers. Donc voilà, de chez Vestron. Si vous avez lu le comics et que vous êtes plutôt d'accord avec nous, bah dites-le. Si vous avez lu le comics et que vous êtes plutôt d'accord avec Angel, bah n'hésite pas à le dire aussi.
Bah oui, tapez. Alors, si vous aimez, vous tapez 1. Si vous aimez pas, vous tapez 2.
Voilà, exactement. N'hésitez pas. Sur ce, nous on va se laisser, mais il y a la deuxième émission, ne vous inquiétez pas. L'actu pop qui arrive juste après pour les gens qui nous écoutent sur Twitch, puis pour les gens qui nous écoutent
en podcast,
en live, c'est en podcast. C'est sur le flux ou la vidéo. Pour les gens sur YouTube, c'est sur l'autre chaîne, donc allez sur l'autre chaîne, je le rappelle. Donc voilà, sur ce, on se laisse, on dit à la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés, bye bye.
Merci.
Tchuss.
Salut.